Causerie. Un temps de parole partagé entre artistes.
Madame, qu'est-ce que vous en pensez ?
La causerie donne à entendre les réflexions qui traversent aujourd'hui le monde du conte et de l'oralité. Je cause, tu causes, elle cause, nous causons pour penser avec vous.
Cette émission spéciale avec une nouvelle émission, La Causerie, pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir la Maison du Conte de Liège. Et avec moi ici en studio, j'ai Gaëtan Windels. Bonjour. J'ai aussi Marino Herbier. Bonjour. Est-ce que. Et le dernier, Philippe Noël.
Oui, c'est moi. Bonjour.
Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je vous propose de faire une petite pause musicale, histoire que vous vous installiez correctement et qu'on puisse discuter un peu. Et je vous propose d'écouter A.A. C'est un artiste liégeois et il sait C'est pour quand.
Arrête de m'observer. Le ciel et ses promesses commencent à m'énerver. Y'a trop de questions dans ma tête, trop peu de réponses à la télé. Laissez-moi parler à mon père. Laissez-moi lui dire que de tout là-haut, les étoiles me regardent sombrer dans la merde. De toute façon, moi j'ai plus rien à perdre. Si ce n'est pas pour maintenant, si ce n'est pas pour demain, moi je peux pas foutre le camp, donc dites-moi, c'est pour quand? Si ce n'est pas pour maintenant, si ce n'est pas pour demain, moi je peux pas foutre le camp, donc dites-moi, c'est pour quand? Lorsqu'on est dans le mal, on joue au jeu des dames et nous la vie nous fait du sale. Mais on profite toujours du soleil. Je suis coincé dans un sablier. J'ai vu s'effondrer le phare et là je suis perdu dans la nappe. Est-ce que le temps m'a oublié? Est-ce que le temps m'a oublié? Tant mieux pour mon âme et tant pis pour mon âge. Emporté dans un tourbillon, j'ai cru que j'étais libre, je tournais dans le vide. On se bat en attendant que tourne le vent. On avance, on avance. Si ce n'est pas pour maintenant, maintenant. Si ce n'est pas pour demain, demain. Moi je peux pas foutre le camp. Donc dites-moi, c'est pour quand,
c'est pour quand, c'est
si ce n'est pas pour maintenant, si ce n'est pas pour demain.
Voilà, toujours sur S'écouter, ça compte, dans le cadre du Festival du Conte de Chigny. Et je suis avec Gaëtan Windels, Marino Herbé et Philippe Noël de la Maison du Conte de Liège. Alors, bonjour tout le monde.
Bonjour. Bonjour.
Alors, je suis très heureuse de vous accueillir ici dans les studios de 48FM. On fait un petit duplex. Avant de commencer et de vous laisser la parole, est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu ce qu'est la Maison du Conte ?
C'est une association de conteurs qui est organisée en ASBL, qui a fêté ses 20 ans l'année passée. C'est une des anciennes associations de conteurs de la communauté française Wallonie-Bruxelles, hein, avec la Maison du Conte de Namur, qui est un peu plus âgée que nous, avec le Festival de Chigny, qui est encore un peu plus âgé que nous, qui est dans sa 30e édition environ. Et voilà, nous avons des activités de conte mensuelles. On a un petit mensuel papier aussi, qui donne les nouvelles du conte, qui publie des contes originaux, qui a un agenda de tout. Et puis on a quelques activités spéciales, dont Chigny par exemple.
Alors, peut-être pour contextualiser un peu, vous parliez d'activités. Quel type d'activité et à qui elle s'adresse ?
Voilà, donc notre activité régulière, c'est la veillée du 7. Donc, le 7 de chaque mois, jusqu'au 7 mars et le confinement, nous avons fait depuis 300 veillées, hein, donc depuis plus de 20 ans, parce que d'autres, nos prédécesseurs, nos géniteurs de la Maison du Conte, qui étaient paroles actives, avaient commencé avant nous, font cette veillée de conte. C'est une petite assemblée ou un peu à l'ancienne, comme ça on se réunit avec un petit public de 20, 30, 40, 50 personnes suivant les mois et on se raconte des histoires. Voilà, qu'on soit conteur de la Maison du Conte ou conteur occasionnel, on peut venir s'inscrire et raconter des histoires. Ça, c'est notre activité vraiment régulière. Et oui.
Non, allez-y.
Et puis, on a aussi alors d'autres activités. D'abord, chaque conteur ou plusieurs conteurs de notre groupe ont leurs activités personnelles, sous contrat ou dans leurs activités qu'ils développent eux-mêmes. Et puis, par initiative ou parce qu'on est appelé, on a des activités plus importantes. Par exemple, les dernières années, on a participé au Conte de la Chartreuse, organisé par la ville de Liège, là, sur le parc de la Chartreuse.
Et la Nuit des Coteaux, aussi.
À la Nuit des Coteaux, on est présent. Quoi d'autre ? On a fait le Festival du Conte de Liège avec la ville de Liège pendant 2-3 ans, autour de l'Oasis des Contes et des Contes à la Chartreuse. À Anse, on a fait la Nuit de l'Obscurité. Au Muséum d'Histoire Naturelle, on a fait des Nuits au Musée.
Pas mal de choses.
Voilà.
Alors, je vais peut-être m'adresser à vous, Marina. Quelles sont pour vous les qualités d'un conteur ?
Ah, alors là. D'abord, il faut apprendre à parler doucement et à laisser des silences. C'est la première chose que j'ai dû apprendre, parce qu'au début, on est quand même pris par le trac et on veut en avoir vite fini. Et alors ça, c'est la première chose à apprendre. Faire des silences. Et puis trouver une histoire qui nous plaise. Mais ça, c'est tellement personnel à chaque conteur. C'est une histoire qui doit me parler. Et puis alors, je la transmets. Nous sommes des passeurs d'histoire. Voilà.
Alors, est-ce que vous, personnellement, il y a une histoire qui vous a particulièrement marqué ou à laquelle vous vous attachez plus d'importance que d'autres ?
Il y en a beaucoup. oui. La toute première histoire que j'ai contée, c'est une nouvelle de Jean Giono. C'est l'homme qui plantait des arbres. Et ça, c'est vraiment une histoire qui m'avait extrêmement touchée, que j'ai dû évidemment retravailler, la raccourcir, l'élaguer. C'est vraiment dans le sens premier du terme. Et celle-là, c'est vrai qu'elle... C'est ma toute première aussi. Voilà.
Philippe Noël, vous, justement, vous parliez Marino Delaguet, comment est-ce qu'on prépare justement un texte pour finalement le compter? Comment est-ce que vous préparez ça? Est-ce que ça se prépare déjà ou pas?
Oui, ça se prépare. Ça se prépare tout à fait. Donc, comme le disait Marino, il y a l'histoire qui vous parle. C'est quelque chose d'assez inexplicable.
C'est très personnel. Hein.
Ça vous frappe et vous la réappropriez. Alors, moi, en presse, souvent, ça tourne en moi quand je me balade. Il y a des choses qui viennent, des mots qui viennent se mettre ou se remettre sur les anciens mots ou sur les idées quand l'histoire n'était pas encore complète. Et puis, moi, je la mets par écrit une fois qu'elle m'est formulée dans ma tête et que je l'ai dite aussi à voix haute, par exemple en me promenant dans les bois, tout seul. Il faut qu'elle soit dite une fois à voix haute pour moi, avant de la coucher sur papier, et le papier ne devient qu'un aide-mémoire ultérieur. Et puis à partir de là, l'histoire, elle fait encore son chemin avec le public. On se rend compte que ce passage-là accroche mieux qu'un autre, que cette image-là qu'on avait voulu mettre en mots évoque bien ce qu'on veut dans les yeux du public ou pas. C'est trop long là, c'est trop court là, et on ajuste. Et c'est au bout de la répétition que l'histoire, elle s'affine.
Ah, donc elle évolue en fait, oui. Cette histoire au fil de quand vous la racontez, alors, c'est ça?
C'est pour ça l'intérêt de venir aux Veillées du 7, qui sont ouvertes aussi aux conteurs. Moi, je me rappelle la toute première fois où je suis venue à la Veillée du 7, on est là tout tremblotant, tout paniqué. Et puis c'est vrai qu'après, on a des petites remarques bienveillantes, hein, et on ajuste, on modifie.
Et voilà, et aujourd'hui c'est une grande expérience, parce qu'on va dire des contes, mais on a imaginé comment ça allait passer à la radio. On a élagué, enfin moi j'ai réécrit, j'ai raccourci, je me suis dit « Ah mais je fais ce geste-là en même temps d'habitude, est-ce que ça va être compréhensible sans geste? Est-ce que je rajoute un mot pour décrire le geste ?» Et voilà, ce silence-là. À la radio, j'imagine que le silence qui est soutenu par un regard, à la radio, il n'est pas soutenu par un regard. Donc, il a moins de poids, il n'a peut-être pas de raison d'être. Donc, on se lance.
On se réjouit d'écouter tout ça. Hein. Et peut-être avant de vous laisser la parole, une dernière question. Quel est votre lien avec le Festival de Chigny, justement?
On a été invités pour... c'est un de nos anciens conteurs, malheureusement disparu, qui a eu l'idée de créer Potée de contes à la Liégeoise. Donc on a notre petite tante, et puis on a invité d'autres conteurs hors Maison du Conte, d'autres conteurs liégeois. Et alors on se fait des créneaux horaires comme ça dans notre prairie, c'est dans le jardin d'une école à Chigny. Et c'est comme ça que ça a démarré, et ça fait déjà 4 ou ça aurait dû être la 5e année, je pense. Année-ci. Et alors, c'est très gai parce qu'on revoit des conteurs qu'on ne voit pas très souvent. Et on a chacun notre personnalité, le public. On fait chaque fois un apéro. Toujours le bienvenu pour le public.
pour rendre à César ce qui est à César, la Maison du Conte a été créée par une association qui s'appelle Parole Active, dont plusieurs conteurs étaient dans les deux associations. Et ils ont été les piliers du Festival de Chigny, notamment dans les contes d'intervention et dans les formations aux contes d'intervention qu'ils continuent à faire. Étienne Piette, Yvan Couclet, Paul Fauconnier, etc. Et donc, leur insertion dans le Festival du Conte nous a permis aussi de prendre notre place par la potée de contes liégeoise, à la liégeoise.
Alors, toute dernière chose et rapidement, si on veut en savoir plus sur vous, où est-ce qu'on se trouve? Est-ce que vous avez un site internet, un Facebook?
Voilà, maisonducomteliège.be.
Et Facebook.
Et on a une page Facebook qui relaye les informations surtout.
Super, alors je vous propose de vous laisser la parole tout de suite. On va juste écouter une petite virgule et puis c'est tard.
Ramasser au bord du chemin une poignée de terre de mensonges. Creuser 3 trous semez 3 graines de vérité, laissez pousser et vous aurez 3 comptes.
Un jour, la folie a décidé d'organiser un grand banquet. Banquet auquel elle a convié tous les sentiments, tous les traits de caractère, les défauts et les qualités. À la fin du repas, au lieu de leur proposer un petit péquet, elle leur propose de jouer à cache-cache. À cache-cache ? C'est quoi ? Demande la curiosité. Mais c'est facile. Je ferme les yeux. Je compte jusqu'à 100. Vous courez vous cacher dans mon jardin. Le premier que je trouverai prendra ma place pour la partie suivante. Pouh, mais quel bête jeu ! S'exclame le dédain. Marchera jamais, dit le pessimisme. L'impatience, elle file comme une flèche dans le fond du jardin. C'est moi qui vais gagner, s'exclame le triomphe, qui s'éloigne à enjambées de conquérants, talonné par la jalousie et l'envie. À ce moment, on entend une petite voix qui susurre « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » C'est la perfidie, bien sûr, elle n'en rate jamais une. La tristesse fond en larmes. Mais je ne sais pas où me cacher, moi. » À ses côtés, le désespoir. Ils sont toujours scotchés ensemble, ces deux-là, se tordent les mains, tu vas voir. « On ne va peut-être plus jamais nous retrouver. » Ça m'étonnerait beaucoup, affirme la certitude. Et l'espoir, dans un souffle, oh, si ça pouvait être vrai. L'ennui bâille. L'indifférence lève les yeux au ciel, la paresse écroulée sur son épaule. La motivation qui passe en courant les regarde, je ne comprendrai jamais. La folie termine. Elle est à 98, 99. Elle se retourne. « Mais qu'est-ce que vous fichez là, vous deux ?» C'est la curiosité. Elle est revenue sur ses pas. Elle voulait tellement savoir qui serait trouvé en premier. Et dans son dos, l'impatience. Elle trépigne. « Alors, c'est fini ? C'est fini ?» En souriant, la folie commence ses recherches. Tombe tout de suite sur le doute. Il plane là, au-dessus de la haie. Et puis l'oubli qui fait « Oups !» Elle rentre dans son jardin. Là, un gros massif de rhododendrons, d'où s'échappent des petits soupirs et des gémissements. Doucement, elle écarte les branchages. Oh, c'est le plaisir et la volupté. Il ne joue plus du tout à cache-cache, sans faire de bruit. Cette fois, elle est attirée par un raffut terrible. La colère, écarlate, échevelée, vocifère, hurle sur la rage, toute verte, fulminante, assise à côté de la rancune. En vain, la médiation tente de les calmer. « Mais enfin, ce n'est qu'un jeu, c'est pas grave. »« Si, si, c'est grave, » boude la rancune. Surtout ne pas s'en mêler, et la folie s'éloigne. Et elle tombe là plus loin, sur le rire, au bord du chemin. Il est plié en deux. « Y a de quoi ? Je vous explique. » Soutenu d'un côté par la bonté, et de l'autre, par la gentillesse, l'orgueil s'avance en clopinant. Il est blessé. Et trottinant à petits pas, la pitié et la compassion. « Ça va, t'as pas trop mal. » Et l'orgueil blessé de grommeler « Ça va, ça va. » Eh bien voilà, j'ai retrouvé tout le monde. « Ah non, il en manque un, » affirme la certitude. « Mais qui donc ?» interroge la curiosité. « Mais l'amour ?» « Comment ça ? L'amour n'est pas là ? Personne ne l'a vu ? Mais ce n'est pas possible. L'amour ne peut pas avoir disparu. » Elle refait un tour en quatrième vitesse de son jardin. Ouf, petit valet, où est-ce qu'il est celui-là ? J'avais oublié de vous dire, elle a une résidence secondaire à Liège, la folie. Le calme s'avance. Respire un bon coup. Oh mais oui, je sais où il est. Et elle file dans son jardin secret. Il y a là un gros massif de roses rouges. Ça y est. « Je t'ai retrouvé, je te vois, allez, sors de là, je t'ai vu !» Mais l'amour ne bronche pas, il reste muet. « Mais veux-tu bien sortir de là ?» Alors, il n'y en faut déjà pas beaucoup pour l'énerver, elle attrape un râteau et elle commence à fourrager, comme une folle, dans le massif. Jusqu'au moment où l'on entend un cri de douleur. Et l'amour sort du massif. Oh ! Son visage, en sang, les épines, ses yeux. Oh ! Alors la folie tombe à genoux, implore le pardon de l'amour. Et l'amour, pardonne, bien sûr. Oh, merci. Oh, écoute, je te fais une promesse. Je ne te quitterai plus jamais. Je serai ton bâton de vieillesse, ta canne blanche. Enfin bref, je resterai avec toi pour toujours. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, que l'on dit aujourd'hui, l'amour est aveugle, mais toujours, toujours accompagné de son petit brin de folie.
Une petite dame habite dans une petite maison, entourée d'un petit jardin. Au fond du petit jardin, un petit poulailler où vit une petite poule rousse. Ce jour-là, la petite poule a pondu un petit œuf. Et la petite dame est très heureuse. Elle rentre avec le petit œuf dans sa petite cuisine. Elle bat le petit œuf dans un petit bol. Elle verse dans une petite poêle et fait cuire sa petite omelette. Ensuite, elle fait glisser la petite omelette sur une petite assiette qu'elle dépose sur le petit rebord de sa petite fenêtre pour la laisser refroidir. À ce moment-là, une mouche se pose sur le bord de la petite assiette et avale d'un seul coup la petite omelette. Mais la petite dame est furieuse. Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Oh non, je vais aller déposer plainte à la police. Au commissariat, elle est reçue par le gros commissaire. Monsieur le commissaire, il faut poursuivre cette mouche. Il faut arrêter cette mouche et il faut mettre cette mouche en prison. Ma petite madame, nous n'allons pas poursuivre cette mouche. Nous n'allons pas l'arrêter et nous n'allons pas la mettre en prison parce que, voyez-vous, nous n'avons pas le temps. Nous sommes débordés. Mais, dit le gros commissaire en prenant sous son bureau un gros bâton qu'il tend à la petite dame, si vous revoyez cette mouche, eh bien, dites-lui bonjour de ma part. À ce moment-là, la mouche se pose sur le gros nez du gros commissaire. Et la petite dame avec son gros bâton. On dit qu'il a fallu plus d'une semaine pour que le nez du commissaire reprenne sa taille normale.
Dans cette histoire, un homme. Mais c'eût pu être une femme. Certaines histoires ont besoin parfois d'être actualisées. Un homme a traversé, comme beaucoup d'hommes ou de femmes dans leur vie, une grande forêt sombre et dangereuse. Oui, le conte joue avec les symboles. Cet homme, donc, marche dans cette forêt tellement dense qu'il voit à peine où il va. Nul chemin n'y est tracé, et il sait seulement qu'il doit avancer. À chaque pas, il écarte branchages, lianes, se trébuche dans les racines, s'égratigne aux ronces. Il est entouré de bruits inquiétants. Soudain, un bruit plus étrange, plus fort, le fait sursauter. Un moment d'inattention, un saut de côté, il tombe dans un trou profond et in extremis se rattrape à une racine au bord du trou. Agrippé à cette racine, il regarde vers le bas. Il distingue des pieux acérés au fond du trou. Là, dans ce piège à fauve, toujours accroché et tentant de se sortir du trou, il entend un bruit venant du fond du trou. Il regarde et distingue des serpents venimeux, enroulés autour des pieux, rampant vers ses pieds nus. Il fait un effort pour se hisser un peu plus haut quand... Boum, 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 boum. Il lève les yeux et voit des pattes énormes s'écraser devant, derrière, à côté de ses mains toujours accrochées à la racine. Des éléphants sauvages. Une troupe des éléphants de la jungle fonçant droit devant eux sans se soucier de rien. Notre homme s'agrippe encore davantage et... Venant de côté, cette fois, des rats. Des rats ont commencé à ronger la racine qui le retient à la vie. Et bzzz, bzzz, bzzz. Là-haut, au-dessus de sa tête, apparaît en plus un essaim d'abeilles. Les terribles abeilles tueuses de la jungle. Une seule piqûre d'une seule abeille et vous êtes mort. Les serpents, boum, 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 les éléphants, les rats, bzz, 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 les abeilles. L'homme est désespéré. Il ferme les yeux en attendant le pire, la fin. Quand il sent sur son visage quelque chose de doux, à ses narines un parfum suave, il ouvre les yeux. De l'essaim d'abeilles sont tombés sur sa joue quelques gouttes de miel. Notre homme alors lâche une main, recueille le précieux nectar et le porte à sa bouche avec délectation. Heureux soit l'homme ou la femme qui, en toutes circonstances, garde le goût du miel.
Et nos contes s'en vont, portant sur leur tête le ciel et dans leurs bras la terre.
Merci, je vous rappelle qu'on était avec la maison du conte de Liège pour s'écouter sa conte.